Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et trop souvent, l'on n'y prend point garde. Mais ceux qui savent y être attentifs peuvent discerner le chemin du salut et de la bénédiction qu'il a pour eux. Et au fur et à mesure, ils distingueront combien ce chemin est bénéfique et rempli de manifestations de l'amour du Seigneur à leur égard. Mais par contre, ceux qui résistent à Dieu, qui font la sourde oreille quand il leur adresse sa parole, qui ne tiennent pas compte de sa volonté, se préparent des lendemains difficiles. Ils risquent de se retrouver dans des situations catastrophiques. Et c'est aussi ce qui ressort du témoignage que nous pouvons présenter maintenant, ainsi que d'ailleurs de la prédication de la parole de Dieu qui va suivre. Voici donc un serviteur de Dieu qui témoigne. C'est une histoire vraie qui me fut raconté par le principal personnage et qui magnifie la grâce de Dieu dans une vie naufragée par le péché. Dans une ville d'Iowa, aux USA, vivait un vieux fermier nommé Conley. Il était père de 12 enfants, 6 garçons et 6 filles, qui promettaient de devenir de bons citoyens et de véritables disciples du Seigneur Jésus, car le père était un méthodiste de la vieille école et élevait sa famille dans la crainte de Dieu. Plusieurs étaient déjà adultes. L'un était homme de loi, un autre docteur, un troisième professeur dans une école biblique. Et quand le bébé Joe arriva, le père et la mère firent pour lui comme pour les autres. Ils le consacrèrent au Seigneur. Quand Joe était enfant, sa mère disait souvent « J'espère que celui-là sera prédicateur de l'Évangile, comme le sont deux de ses frères. » Les années passèrent, pendant lesquelles Joe fut en bénédiction au foyer. Quand il eut fini ses études à l'école supérieure, son père lui dit « Joe, as-tu décidé de ce que tu veux faire ?»« Oui, père, les cours que j'ai suivis me permettent de devenir ingénieur. Je serai donc ingénieur. » Un nuage assombrit la figure du père. « Oh, je suis attristé. Nous avions espéré que tu serais prédicateur. Es-tu sûr de ne pas avoir entendu la voix du Seigneur ?» Joe promit de prier à ce sujet, et 2 semaines plus tard, il vint vers le père. « Père, je suis décidé. J'entrerai dans le ministère. » Son père le prit dans ses bras et l'embrassa. Joe entra à l'université de l'Iowa, obtint son diplôme et passa ensuite 3 ans au collège méthodiste afin de se former pour le service de Dieu. Un jour, un des professeurs lui dit « Dans tout ce que nous avons cru à l'origine, il y a un mélange de superstitions. Vous êtes un garçon intelligent. Je sais que le doyen vous considère comme l'un de nos plus brillants étudiants. Examinez toutes choses avec soin. Appliquez-vous à l'étude. J'aimerais que vous lisiez les philosophes Darwin, Renan et Huxley. » Quand Conley sortit de cette faculté, la raison luttait avec la foi dans son cœur. Et ce fut la raison qui l'emporta. Il accepta le poste de pasteur d'une petite église méthodiste en Iowa. Là, il se maria avec une jeune chrétienne très consacrée, fille du pasteur d'une ville voisine. 3 ans après, il fut nommé pasteur de la plus importante église de Santa Ana. Il passa là 2 ans, pendant lesquels se livra dans son âme un terrible combat. Les plus grandes batailles de l'histoire se sont toujours déroulées dans le secret du cœur humain. Joe Conley reçut le titre honorifique de docteur en théologie. Cependant, il glissait toujours vers le modernisme en interprétant les Écritures, se basant sur la raison et non plus sur la foi. On lui avait dit que pour arriver à un équilibre raisonnable, il devait considérer les 2 côtés de la question et ne pas se rallier au méthodisme par enthousiasme ou par sympathie. La convention méthodiste eut lieu à Los Angeles cette année-là et le président félicita Joe Conley de son excellent travail, ce qui lui valut d'être nommé pasteur de la première église méthodiste de San Diego, puis de Pomona, en Californie. Ce fut là que la graine autrefois semée dans son cœur porta ses fruits. Un jour, il confia à sa femme qu'il se sentait hypocrite, car il ne croyait plus au principe que son église lui demandait de prêcher. « Je ne puis plus supporter cela, » ajouta-t-il, « je vais abandonner le ministère. » Il niait la naissance divine de Christ et ses miracles. Un jour, il monta en chaire et déclara « Mes amis, je vais vous faire une confession. » Je ne puis croire à la Bible. Pendant des années, la bataille s'est livrée dans mon cœur. Et maintenant, il faut que je respecte mes opinions. C'est la dernière fois que je prêche. » Écrivain de talent, bien vite, il trouva du travail. Il retourna à Santa Ana, où il devint éditeur du journal The Santa Ana Herald. il commença à fumer et à boire. Il joua un peu, alla de mal en pis, et perdit son poste à plusieurs reprises. À Kovina, il fonda un journal qui existe encore. Il le vendit ensuite pour une petite fortune et devint éditeur-rédacteur du Los Angeles Times et du Examiner. Par la suite, il perdit encore cette situation à cause de la boisson. Ses écrits étaient toujours aussi brillants. Sa plume semblait sans cesse inspirée. Cependant, bien souvent, il manquait le travail et se faisait congédier à cause de son continuel état d'ivresse. Il allait d'une place à l'autre. Lui, qui avait été pasteur de la plus grande église de San Diego et de Pomona, devint un incorrigible ivrogne, errant ça et là et grelottant dans ses loques. Chaque soir, on le trouvait invariablement dans l'arrière-boutique du Mineral Cabaret. Attribuant à son ancienne vie la responsabilité de sa chute, dans son animosité contre Dieu, il commença des réunions en plein air où il attaquait avec véhémence le méthodisme et le christianisme. Il devint président de l'Association des libres penseurs de Californie et pendant 12 ans, il n'interrompit pas un seul soir ses conférences sur l'athéisme. Un jour, il leva les mains vers le ciel et défia Dieu de le frapper de mort. Comme rien n'arrivait, il s'écria « Vous voyez, ami, il n'y a pas de Dieu ». Ensuite, il faisait une quête, récoltait quelques menues monnaies qu'il allait dépenser au cabaret. Maigre, pâle, les yeux enfoncés, il blasphémait, maudissait, jouait et se roulait dans l'orgie. Soir après soir, on le ramenait à sa femme, qui, elle, priait. Je me demande ce qu'aurait pensé le professeur qui lui avait donné les livres sur le modernisme, s'il avait pu le voir dans cet état de misère et de dépravation. Un jour, le docteur Conley, ivre comme d'habitude, se heurta à un passant. « Voulez-vous donner l'aumône à un camarade ? » dit-il. L'homme le regarda, et stupéfait, il reconnut son ancien pasteur. « Vous n'êtes pas Conley, dites-moi. »« Conley est mon nom. »« Mon ancien pasteur, que faites-vous ainsi ? Je n'en puis croire mes yeux. » Et le bon docteur, chrétien, car c'était un docteur, l'emmena chez lui, lui donna un bain, le revêtit d'un nouveau costume et le conduisit dans un hôtel voisin. Le docteur Conley vendit ses habits et dépensa l'argent en boisson. Le docteur intéressa ses amis au sauvetage du vieil ivrogne, mais sans résultat. Chaque sou qu'il recevait passait à la boisson, si bien qu'il tomba aussi bas qu'une créature humaine puisse arriver. Et à la fin, tout le monde l'abandonna, sauf le docteur qui se dit « Si nous pouvions l'envoyer loin des cabarets, cela pourrait peut-être le guérir. » C'était l'époque de la grande ruée vers l'or de l'Alaska. Les hommes, semblables à une multitude de fourmis, se précipitaient vers le métal jaune. Les amis de Conley pensèrent qu'il y avait là une chance de salut. L'ivrogne invétéré accepta de partir. Ils lui achetèrent de nouveaux habits, lui garnirent une petite valise et le conduisirent sur le bateau en partance pour l'Alaska. Sa femme et sa petite-fille vinrent le voir partir. La petite Florence, passant ses bras autour du cou de son père, lui dit « Papa, mon cher papa, maman a mis un coffret de médecine dans ta valise, pensant que tu pourrais en avoir besoin. Et dans le coffret, j'ai mis mon petit livre. Je ne le donnerai à personne d'autre au monde qu'à toi, seulement à toi. Le liras-tu ?» Cette petite Bible était tout pour Florence. Sur la première page, elle avait écrit ces mots « À mon papa chéri, avec tout l'amour de Florence, n'oublie pas que nous t'aimons. » Quelques semaines plus tard, Conley se trouvait mêlé à la foule innombrable des chercheurs d'or en route vers le Yukon. Sur la place principale de la ville se trouvait un cabaret, le plus grand établissement du lieu. Conley se fit embaucher dans ce vil trou d'enfer. Là, le docteur Conley lavait les parquets, nettoyait les comptoirs, et pour tout salaire, recevait une nourriture à peine suffisante pour le maintenir en vie. Mais il pouvait boire toute liqueur jusqu'à l'ivresse. Un jour, le propriétaire d'un grand terrain vint lui dire « Docteur, j'ai besoin de vous pour aller à 65 kilomètres d'ici. Nous y avons trouvé de l'or. Je suis le seul à connaître la chose avec l'homme qui l'a découvert. J'ai besoin que vous alliez là-bas pour tenir la place. » « Pas moi, dit Joe, je ne veux pas partir, vous connaissez ma petite faiblesse. » Il n'allait pas partir dans un endroit où il ne pourrait pas avoir de whisky. Mais l'homme ajouta, « Joe, vous aurez à boire autant que vous voudrez. Nous vous approvisionnerons tous les 15 jours, vous n'aurez rien à faire, seulement à rester assis dans la cabane et à passer du bon temps. » Joe Conley se trouva ainsi un jour, seul dans la lointaine cabane, éloigné de 65 kilomètres de la ville la plus proche, n'ayant d'autre occupation que de boire du whisky, dont il avait fait une bonne réserve en prévision de l'hiver qui venait. Le baril avait déjà baissé d'un quart environ quand, un jour d'octobre, on frappa à la porte. C'était Miller, un catholique, qui disait avoir froid et faim. « Entrez, dit Conley, il y a ici un baril de whisky. » Miller se mit à rire et entra. Les deux hommes s'assirent pour boire, et pendant 15 jours, ils ne s'arrêtèrent de boire que pour rouler à terre. On frappa encore à la porte. C'était Wally Flett, un médium spirit de San Francisco. Quand il vit la liqueur, l'eau lui vint à la bouche. « N'aimeriez-vous pas que je reste avec vous ?»« Oui !» Ils furent dès lors trois dans la petite cabane, riant, buvant, gesticulant, se plaisant à raconter des histoires obscènes. Novembre vint et passa. Ils firent trois voyages à la ville avec les chiens pour renouveler leur provision d'alcool. Mais bientôt, l'ivresse continuelle attaqua leurs nerfs. Et soir après soir, ils criaient, hurlaient dans les tourments du délirium tremens. Pour se distraire, ils eurent une séance spirit. Wally Flett, ancien médium, les initia aux pratiques spirit. Soir après soir, ce fut leur programme. Une nuit, l'un d'eux approcha tout près de la mort. Agonisant dans une crise de délirium tremens, Jim Miller s'écria « Amenez-moi un docteur, vous ne pouvez pas me laisser mourir ici !» La ville la plus proche était à 65 kilomètres. Le thermomètre marquait 40 degrés au-dessous de zéro. La neige était très haute. L'agonisant criait toujours « Amenez-moi un docteur !» Le docteur Conley se souvint que dans sa valise, il y avait un coffret de médecine. Il alla le chercher. Un petit livre tomba sur le parquet. Il l'ouvrit et lut « De Florence à papa ».« Florence ? Florence ? » ?»« Qu'as-tu, Conley ?» demanda Wally Flett. « C'est une Bible, maudite soit-elle !» Et Conley voulait la jeter au feu. Mais comme il allait la lancer, Wally s'écria « Ne la brûle pas ! Nous n'avons rien à lire en ce pays maudit. J'ai lu 20 fois ton unique journal. » Et il l'arracha des mains de Conley qui lui dit « Si ça te fait plaisir de la lire, lis-la, mais moi je n'en veux pas. » « Qu'est-ce qui est écrit sur la première page ?»« À mon papa chéri, avec tout l'amour de Florence. » Il était devenu plus calme. « Ma petite fille, je suis content de ne pas avoir brûlé le livre que ma petite Florence m'a donné. » La médecine fit bientôt son effet, et Jimmy Miller, vite convalescent, désira lire quelque chose. Il avait l'habitude de lire à haute voix. Joe lui disait de se taire, mais Wally s'intéressait à la lecture. « Que lis-tu, Jimmy ?» lui disait-il. Et Jimmy relisait. Un jour, Wally Flett dit « Je ne pensais pas qu'il y avait des choses pareilles dans la Bible. Que diriez-vous si nous la lisions pour passer le temps ?»« Oh, pas pour y croire. Joe a été prédicateur. Il dit que tous les prédicateurs sont stupides. » Ils prirent ainsi l'habitude de lire, chacun leur tour, et sans qu'ils s'en rendissent compte, une transformation s'opérait dans les habitudes de la cabane solitaire. Le whisky baissait plus lentement dans les barils. Certains jours, ils lisaient 5, 6, 7 chapitres. Ils arrivèrent ainsi au Nouveau Testament. Les blasphèmes, les jurons devenaient plus rares. Le whisky était quelquefois oublié. Et un jour, Wally Flett dit « N'avez-vous pas remarqué un changement en nous ? Je n'ai pas entendu jurer depuis 3 ou 4 jours. Je me demande si c'est la Bible qui en est la cause. » Noël vint. Ils lurent l'histoire de la naissance de Christ. « Quel jour est-ce aujourd'hui ?» Noël. Je me demande ce que font tous les petits au pays. Qu'as-tu, Joe ? Je pense seulement à ma petite Florence. Elle avait l'habitude de mettre ses souliers dans la cheminée avant que je fasse le fou avec la boisson. Un jour, ce fut au tour de Wally de lire « Que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. » Dans Jean, chapitre 14, verset 1er. Joe, du revers de la main, s'essuyait les yeux. « Qu'as-tu, Joe ?»«
Rien. »«
Est-ce que tu pleures, Joe ?»«
Oui, continue la lecture. Je pense à ma petite fille. Je ne pleure pas à cause de cette Bible. »
Tout pensif, Wally dit « Je voudrais bien savoir si ce livre est vrai. Depuis 5 jours, j'ai envie de prier. Ce qui m'en a empêché, c'est la crainte de vos moqueries. Et maintenant, tant pis si vous vous moquez de moi. Je vais demander à Dieu de me parler s'il existe. » « Eh bien, dit Joe, je veux vous avouer aussi que depuis une semaine, mon cœur s'est brisé. Bien que ma mère soit maintenant dans la gloire, il me semble encore l'entendre prier. Et toi, Jimmy, qu'en penses-tu? Si vous voulez prier, je prierai avec vous. » Et les trois ivrognes s'agenouillèrent. Leurs prières s'élevèrent toujours plus haut. Soudain, Wally Flett se leva. « Alléluia, alléluia » criait-il. « Jésus m'a entendu !» Il parlait encore quand soudain, Jimmy Miller, puis Joe Conley se relevèrent d'un bond, rendant gloire au Seigneur. Il était 2 heures du matin. L'homme à la robe sans tache les avait visités. Il me semble le voir en esprit, debout près du vieux poêle, posant ses mains bénissantes sur leur tête. Joe prit le baril de whisky, le roula devant la porte. Wally s'arma de la hache, et bientôt la liqueur coula dans la neige, tandis que 3 hommes donnaient gloire à leur sauveur, et que les anges se penchaient pour contempler le spectacle de la grâce de Dieu dans la cabane solitaire. Jimmy, Joe et Wally étaient nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Voici le témoignage du frère qui rapporte ce témoignage là aussi. Tandis que je faisais une série de conférences à Eugene, en Oregon, le frère Hornshoe me présenta le doyen de leur école biblique, le docteur Joe Conley. Ce fut le commencement d'une amitié étroite entre lui et moi. À la fin de la campagne, le docteur me demanda de lui accorder 3 heures et d'apporter avec moi un crayon et du papier. « Je n'ai plus longtemps à rester dans ce monde, me dit-il. Je vais bientôt partir avec Jésus. Mais j'ai prié et je crois que Dieu veut que mon histoire soit écrite. » Le même soir, j'étais auprès de lui. Dans la pièce voisine se trouvaient sa femme et Florence. « Vous me pardonnerez si je pleure un peu, me dit Joe, mais je dois vous raconter ma vie depuis le commencement. » Et il me dit l'histoire que je viens de relater. À 3 reprises différentes, il s'arrêta et nous priâmes. Quand il eut fini, je l'embrassai et nous pleurâmes ensemble. Une semaine plus tard, j'étais à Yakima. Un élève d'Eugène demanda à me voir et me dit « L'oncle Joe est parti pour la gloire. » Quand il comprit qu'il partait, il m'envoya chercher et me chargea de ce message pour vous. Jésus, qui m'a trouvé dans la cabane solitaire, est avec moi. Ce furent ses dernières paroles. Il posa ensuite la tête sur l'oreiller et partit. Wally Flett, rempli du Saint-Esprit, est prédicateur dans le Texas. La dernière fois que j'entendis parler de Jimmy Miller, il prêchait aux incrédules. Le vieil oncle Joe est maintenant avec Jésus. Jeunes amis, prenez garde à vos lectures. Aucun livre n'est semblable au livre, le seul, le grand, la parole de Dieu, la Bible. Et si jamais le combat fait rage dans vos cœurs et dans votre vie, dites « Seigneur, puisque je ne comprends pas tout, je veux te croire. Et puisque ma raison ne saisit pas, je veux marcher par la foi. Et si tout est obscur, je veux avoir confiance en toi. » Amen. Voilà, mes amis, eh bien, nous allons, après ce beau témoignage, ouvrir la parole du Seigneur dans le livre du prophète Daniel au chapitre 5, mais nous allons prier. Merci Seigneur, c'est vrai, pour les choses admirables que tu fais dans les vies, que tu es capable de faire encore Seigneur, et que tu veux faire encore même ce soir, lorsque ta parole est lue, lorsque ta parole est exposée Seigneur. Et merci pour ces moments dans lesquels tu accomplis encore toute œuvre bénéfique et salutaire, toute œuvre de salut et de délivrance. Merci pour les cœurs, les âmes et les vies que tu veux encore visiter. Amen. Amen. Nous lirons donc dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 5, à partir du verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Et parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ?» J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et nous revenons sur le verset 27. « Pesez, Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Et tous ceux qui aiment l'aventure et les émotions fortes devraient lire la Bible, car la Bible est le livre le plus dramatique qui ait jamais été écrit. Une des scènes les plus intéressantes et à la fois les plus suggestives de la Bible est décrite là, dans ce chapitre 5 du livre de Daniel, c'est le festin du roi Belshazzar. Belshazzar, rappelons-nous, n'était pas le souverain suprême de Babylone. Nabonide, son père, était roi et l'avait associé au trône. Belshazzar était donc commandant en second du royaume. Les critiques avaient l'habitude de dire qu'il n'y avait jamais eu de roi comme Belshazzar, mais l'archéologue Sir William Rawlinson a déterré une tablette de Nabonide lui-même sur laquelle il parle de son fils Belshazzar. Et une fois de plus, les critiques, comme si souvent auparavant, ont eu la bouche fermée par les découvertes de l'archéologie moderne. Mais maintenant, Belshazzar était commandant suprême de la cité. Son père Nabonide avait été retenu loin en dehors des murailles de la ville par les forces de Cyrus qui assiégeaient la capitale. Enfiévré par sa puissance toute neuve, Belshazzar fait un grand banquet. Le palais est un ruissellement de lumière. Les longues tables sont mises pour plus de 1000 convives. Elles sont brillantes, étincelantes de plats, de coupes, de cruches, d'argent et d'or, beaucoup incrustées de diamants, et renvoyant l'éclat des candélabres sans nombre. Les invités sont affalés autour des tables, les mains et les bras chargés de bracelets et d'anneaux. L'air est lourd de parfums. Il résonne de la musique des harpes, des trompettes et des sacs-buts. Entre les tables, les femmes orientales se contorsionnent au rythme de danses asiatiques. Les plaisanteries et les réparties fusent de toutes parts. Au milieu de toute cette hilarité, une pensée étrange pénètre dans l'esprit de l'hôte royal. Belshazzar murmure un ordre secret à son chef des serviteurs. Les invités sont remplis de curiosité pour savoir ce que ce commandement mystérieux peut être. Leur curiosité est bientôt satisfaite, car le chef des serviteurs, suivi d'une armée d'autres, fait son entrée en portant dans leurs bras les coupes d'or, d'argent que Nebuchadnezzar avait emmenées du temple de Dieu après le sac de la ville de Jérusalem. Belshazzar commande que les coupes soient remplies de vin babylonien et passent de lèvres en lèvres pendant que lui et ses hôtes chantent les louanges des dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. L'hilarité devient de plus en plus grande. Les instruments jouent de plus en plus fort, les pieds des danseurs s'agitent de plus en plus vite, les plaisanteries et les réparties fusent de plus en plus rapidement. Soudain, un silence de mort s'abat sur la salle de banquet. Un des assistants, levant les yeux sur le mur, aperçoit les doigts d'une main en train d'écrire. Comme il regarde d'un air stupéfait, il devient le centre d'attraction. Tout le monde regarde dans la même direction. Maintenant, le roi se tourne et regarde aussi. Là, écrivant au mur en caractère de feu, il y a les doigts d'une main qui n'a pas de bras. La terreur glace Belshazzar jusqu'au fond de l'âme. En employant le langage imagé du prophète, au verset 6, « Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. » Au bout d'un moment, le roi se ressaisit et crie avec force « Qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins !» Verset 7. Hein. Et voici qu'entrent les mages de Babylone, magnifiquement vêtus. Ils sont remplis d'espérance dans leur cœur. Ils se disent que, par leurs arts mystérieux, ils vont à nouveau tromper le roi et gagner de nouveaux avantages. Mais c'est pour peu de temps. Le regard de confiance disparaît de leur visage. L'inscription est incompréhensible pour eux aussi. De nouveau, la terreur saisit Belshazzar. Sa contenance est changée. La reine-mère entend la confusion et entre. À son tour, elle arrive et crie pour rassurer son fils. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des deux dieux saints. » Versets 10 et 11. Et elle continue en chantant les louanges de Daniel. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Daniel est convoqué. Belshazzar se tourne vers lui. Oh, Daniel, j'ai appris que tu peux donner des explications, résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et me donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. C'est ce qu'il dit au verset 16. Daniel, avec hauteur, repousse les cadeaux promis. Garde tes dons, accorde un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Mais d'abord, Daniel dénonce l'action blasphématoire du roi. Il rappelle l'histoire de Nebuchadnezzar, son grand-père, et comment Dieu l'avait humilié dans son orgueil. Ensuite, il dit « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. » Belshazzar fait apporter le manteau royal, on le met à Daniel, on lui met une chaîne d'or autour du cou, il est proclamé gouverneur du royaume juste après Belshazzar. Le banquet royal continue, l'hilarité augmente. Mais écoutez les pas cadencés des soldats dans les rues de Babylone. Les armées de Cyrus ont détourné les eaux de l'Euphrate et ont pénétré par le lit du fleuve desséché jusqu'au centre de la ville. Un grand craquement de portes qui se brise. Les invités cherchent partout une issue pour s'enfuir, mais il est trop tard. Courant sur les marches du palais, les soldats mèdes et perses se précipitent à l'intérieur. Les épées étincellent dans l'air. Belshazzar lève les yeux, voit l'épée au-dessus de sa tête, elle tombe. Belshazzar n'est plus qu'un cadavre. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Chapitre 5, verset 30. Voilà, mes amis. Je voudrais attirer votre attention sur une des paroles écrites sur le mur. Tekel, c'est-à-dire pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Dans quelle balance Belshazzar a-t-il été pesé ? Dans la balance de Dieu. Non pas dans la balance de sa propre opinion à son propre sujet. Il n'y aurait jamais été trouvé léger. Oh, pas non plus dans les balances de l'opinion publique. Les gens de Babylone auraient dit « Belshazzar est un très grand gouvernant. C'est un homme d'avenir. » Non pas dans les balances de la philosophie humaine, mais dans la balance de Dieu. Et tout homme et femme qui entend ces paroles ce soir doit être pesé dans la même balance, la balance de Dieu. Combien pensez-vous que vous pesez dans la balance de Dieu ? Je ne vous demande pas combien vous pesez dans votre propre opinion de vous-même. Elle n'a pas d'importance, car beaucoup de gens qui pensent de grandes choses d'eux-mêmes ne sont que de peu d'importance dans la pensée de Dieu. Je ne vous demande pas non plus combien vous pesez dans la balance de l'opinion publique. Vous pouvez être très apprécié de vos concitoyens, de votre entourage, mais très souvent, ce qui est hautement estimé par les hommes est une abomination devant Dieu. Combien pesez-vous dans la balance de Dieu ? Il y en a certains qui attachent beaucoup d'importance à leur moralité, à leur culture, à leur raffinement. Mais s'ils savaient combien ils sont légers dans les balances du Dieu éternel et parfaitement saint, ils tomberaient à genoux et crieraient « Ô Dieu, sois apaisé envers moi que je suis un pécheur !» Y a-t-il un moyen par lequel nous puissions savoir combien nous pesons dans la balance de Dieu ? Il y en a un. Dieu nous a donné les poids avec lesquels il nous pèse. Lisez le 20e chapitre de l'Exode et vous trouverez les 10 premiers poids par lesquels Dieu juge les hommes, les 10 commandements bien connus. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que le Dieu d'un homme ? Le Dieu d'un homme, c'est la chose à laquelle il pense le plus. Et il tient le plus. Si un homme pense plus à l'argent qu'à n'importe quoi d'autre, l'argent est son Dieu. Et plus d'un homme sacrifie sa conscience, sacrifie l'honneur, sacrifie l'obéissance à Dieu pour gagner de l'argent. Il fait des choses dans ses affaires dont il sait qu'elles ne sont pas suivant les enseignements de la Bible. Des choses dont il sait qu'elles ne plaisent pas au Dieu saint. Parce qu'il y a de l'argent derrière. L'argent est leur Dieu. Et ils sont trouvés coupables par le premier des commandements de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui adorent l'or, de la même façon que s'il y avait un Napoléon accroché au mur de leur chambre à coucher et qui lui disent leurs prières tous les soirs. Beaucoup adorent la position sociale, l'opinion d'autrui. Combien qu'ils font en matière d'habillement, en matière de vie sociale, ce qui est désapprouvé par leur conscience. Mais c'est ce que leur entourage fait. Et ils pensent que s'ils ne font pas la même chose, ils perdront leur position dans la société. Vous mettez votre entourage ou la société avant Dieu. Votre entourage est votre Dieu. Vous êtes pesé et trouvé léger par le premier commandement divin. Beaucoup adorent l'alcool ou la drogue. Combien d'hommes qui sacrifient leur intelligence, leur capacité de travail, le respect de ceux qui les entourent, l'amour de leurs femmes et de leurs enfants, en adoration à ce maudit alcool ou à ces drogues. J'ai vu bien des dieux abominables quand j'ai voyagé en Afrique, toutes sortes d'images bestiales devant lesquelles des hommes se prosternent et adorent, mais je ne connais rien de plus bestial et de plus dégoûtant que ce dieu de l'alcool et de la drogue devant lequel les hommes se prosternent et sacrifient leurs meilleurs intérêts. Combien de jeunes gens, de jeunes filles qui adorent le dieu du plaisir? Ils font des choses pour leur plaisir, que leur conscience désapprouve ou qui arrêtent leur communion avec Dieu. Ils sacrifient tout pour avoir de l'amusement et du plaisir. L'amusement est leur dieu. Pesés et trouvés trop légers par le premier poids des 10 commandements. Nous ne nous attarderons pas sur le deuxième commandement qui nous parle des idoles et statues devant lesquelles on se prosterne, de la malédiction qui suit une telle attitude. Voici le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Combien pesez-vous lorsque vous êtes pesé par cette loi? Combien d'hommes dans nos rues qui brisent ce commandement? Et non seulement les hommes y désobéissent, mais ils pensent que cela n'a pas d'importance. Ils pensent que c'est une loi sans conséquence. Quand vous vous approchez de ces hommes et que vous leur parlez de Christ, ils vous disent « je ne crois pas que j'ai besoin de Christ. Je ne suis pas un très mauvais homme, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais commis d'adultère, oh, il m'arrive de jurer. » Et s'il y a un péché qui montre que les fondements du caractère d'un homme sont pourris, c'est bien celui-là. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui prend le nom de Dieu en vain. Un jureur serait prêt à n'importe quelle mauvaise action. Quelle est la seule bonne fondation pour un caractère valable? C'est le respect de Dieu. Mais quand le respect de Dieu est parti, la fondation du caractère est partie. Le caractère peut ne pas s'écrouler à l'instant, comme une bâtisse ne tombe pas toujours au moment où ses fondations pourrissent. Mais elle tombera parce que le fondement n'est plus là. Aucun homme ne peut prendre le nom de Dieu en vain jusqu'à ce qu'il soit descendu très bas dans l'échelle de la moralité. Un homme doit descendre bien bas pour parler mal de sa mère. On a vu des hommes aller loin dans le péché, mais si quelqu'un avait parlé mal de leur mère, ils auraient drôlement réagi. Mais un homme doit descendre bien plus bas encore avant de parler légèrement de Dieu. La meilleure des mères n'est rien en comparaison du Tout-Puissant. Aucune mère n'a jamais aimé son enfant, aucune mère ne s'est jamais sacrifiée pour son enfant comme Dieu vous a aimé et s'est sacrifié pour vous. Et si vous pouvez prendre sur vos lèvres le nom de Dieu en vain, vous n'êtes qu'un misérable. Et il vous faut tomber sur votre face dès ce soir devant le Dieu éternel pour implorer sa miséricorde. Il y aurait beaucoup à dire sur le quatrième commandement concernant le jour de repos qui doit être consacré à Dieu. Combien qui pesaient à ce poids-là sont trouvés trop légers. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Combien qui s'attirent la malédiction en n'y obéissant pas? Ils ne traitent pas leurs parents avec le respect et la considération auxquels ils auraient droit. Et ils moissonneront ce qu'ils auront semé. Le sixième commandement, tu ne tueras point. Combien pesez-vous devant ce commandement? Vous me dites, mais pour moi ça va avec ce commandement-là. Il n'y a pas de meurtrier ici. En êtes-vous si sûr? Mais certainement. Où croyez-vous que vous parlez? À la prison de Fresnes? Non, je parle au 28 boulevard Justin Grandhill. Mais il y a d'autres moyens de tuer des gens que de leur enfoncer un poignard dans le cœur ou de leur tirer une balle dans la tête. Un mari peut tuer sa femme par négligence, par cruauté, par infidélité et inversement. Plus d'un fils a tué sa mère par sa vie dissolue et désordonnée. Y a-t-il un homme ici qui tue sa mère? Repens-toi, viens à Christ. Il y a d'autres moyens de tuer quelqu'un. 800 000 avortements en France tous les ans. Oh, venez à Jésus, vous qui êtes trouvé trop léger, c'est le seul moyen d'être sauvé. Le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Que Jésus lui-même a complété en disant, celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, quel commandement, si souvent mis en mal. Le 8e commandement, tu ne voleras point. Combien pesez-vous dans la balance de cette loi ? Attendez un peu, qu'est-ce que voler ? Voler, c'est prendre la propriété d'un autre sans donner l'équivalent, en propriété ou en argent, et sans son accord. Par exemple, tout homme qui vend des biens sous de fausses indications est un voleur. Le marchand qui vend un habit 100% laine alors qu'il est en partie avec autre chose est un voleur. L'homme qui emploie des ouvriers et qui tire un avantage de la nécessité du pauvre pour ne pas le payer selon son travail est un voleur. Tout ouvrier qui ne donne pas à son employeur en un travail honnête un équivalent de son salaire est un voleur. Tout homme qui ramène chez lui sans demander l'autorisation du patron, du matériel ou de l'outillage est un voleur de son entreprise. Tout homme qui fait de fausses déclarations d'impôts est un voleur. Tous ceux qui trichent au contrôle et aux examens pendant leurs études sont des voleurs. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Combien pesez-vous dans la balance de ce commandement ? Eh bien, j'en suis libéré, car je n'ai jamais eu à me présenter devant les tribunaux. Qui a parlé de tribunaux ? Chaque fois que vous avez dit quelque chose concernant quelqu'un qui n'était pas juste, vous avez brisé cette loi de Dieu. Vous entendez une histoire. Vous ne prenez pas la peine de voir si elle est vraie ou non. Peut-être y ajoutez-vous un peu, et vous continuez à la raconter. Et ce n'est pas vrai. Vous avez brisé la loi de Dieu. Vous dites, je pensais que c'était vrai. Ce n'est pas ce que vous pensiez. C'est le fait qui est important. Quelqu'un dira, avez-vous entendu cette terrible histoire au sujet de Madame Intel ? J'ai été si triste. Vous mentez. Vous avez été heureux de l'apprendre. Sinon vous la garderiez pour vous. Ceux qui calomnient, critiquent négativement, sont pires que les pires des voleurs, parce que le voleur ne vole que de l'argent. Le calomniateur vole ce que l'argent ne peut pas acheter, la réputation. Quant au 10e commandement, tu ne convoiteras point, nous ne nous y attendrons pas, car la réponse à notre question se prouve d'elle-même. Combien pesons-nous chacun d'entre nous ? Chacun est pesé et trouvé trop léger. Qu'allons-nous faire par conséquent ? C'est là que l'Évangile entre en jeu. Jusqu'à présent, je n'ai prêché que la loi. Dieu a pesé le monde entier dans sa balance et l'a trouvé léger. Et en Christ, il a pourvu au salut pour un monde trop léger. Dieu a envoyé son Fils, qui a gardé la loi et qui est mort ensuite pour nous, qui ne l'avions pas tenu. Et tout ce que nous avons à faire, vous comme moi, c'est de prendre Christ dans la balance avec nous. Quand nous prenons Christ dans la balance, nous sommes pesés et nous ne sommes pas trouvés trop légers. Voulez-vous prendre Jésus-Christ dans la balance avec vous aujourd'hui ? Malheur à l'homme qui sera pesé dans la balance de Dieu sans avoir Christ avec lui. C'est peut-être la dernière occasion pour certains. Oh, que personne parmi nous n'ait à se retourner en arrière et à dire « Pourquoi n'ai-je pas écouté le prédicateur ?» Vous vous souviendrez alors du message et du texte et vous direz « Oh, si seulement j'avais saisi l'occasion !» C'est l'évangéliste Moody qui raconte ce qui est arrivé à un homme nommé pour garder un pont transbordeur. Il avait reçu l'ordre de ne pas l'ouvrir jusqu'à ce qu'un certain train spécial ait passé. Et voilà que, sur le fleuve, un pilote de bateau après l'autre est venu lui demander d'ouvrir. Réponse, non, j'ai reçu l'ordre d'attendre jusqu'à ce que le train spécial ait passé. À la fin, voilà qu'un ami monte, le presse, et il se laisse persuader, il ouvre le pont. Et tout à coup, voici le sifflement du train spécial. Il saute sur le levier, mais c'était trop tard. Le train arrivait à la vitesse de l'éclair. Il le vit se jeter dans la brèche ouverte. Il entendit les cris déchirants des blessés. Il vit les cadavres de ceux qui étaient morts et il devint fou. Il ne retrouva jamais la raison. Mais il marchait de long en large dans sa cellule de l'asile, criant « Oh, si seulement j'avais ! Oh, si seulement j'avais ! Si j'avais quoi ? Obéi aux ordres !» Hommes et femmes, rejetez Christ, et vous marcherez de long en large, dans l'asile éternel, en vous tordant les mains et en disant « Oh, si seulement j'avais, oh, si seulement j'avais !» J'avais quoi ? Obéi à Dieu, et reçu son Fils comme votre Sauveur. Voulez-vous le faire maintenant ? Prions. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons encore pour cette occasion que tu donnes de se tourner vers toi et de te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Combien il est vrai que lorsque nous considérons les poids que tu emploies fort justement pour voir ce qu'il en est de chacun d'entre nous, nous réalisons bien que nous sommes trouvés beaucoup, beaucoup trop légers, à nous-mêmes, à nous tout seuls. Et nous avons un immense besoin de notre Sauveur Jésus-Christ, qui lui a vraiment correspondu aux exigences divines en tout point. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, il est possible de recevoir Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur. Et si parmi nous il en est qui ce soir se tournent vers lui, qui ce soir veulent le recevoir, eh bien qu'il fasse monter vers lui cette ardente prière et lui dise: Seigneur, eh bien je te reçois maintenant comme celui qui me pardonne, comme celui qui me sauve de mes péchés, comme celui qui me délivre et comme celui qui veut te suivre dès aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Amen. Voilà mes amis, simplement nous voulons compléter avec ces quelques annonces. L'évangélisation dans les villages doit encore se tenir aux environs de Châlons samedi, demain, à 14h30, avec une distribution d'invitations, toujours dans la limite des 10 km et dans les boîtes aux lettres pour l'instant. Le culte est prévu dimanche à 8h30 et le deuxième à 10h45, si vous voulez y participer. Inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone. Et je vous rappelle aussi que la réunion de prière se tient le mercredi à 16h. Ce n'est pas la peine de s'inscrire pour participer à cette réunion. En tout cas, que le Seigneur manifeste sa grâce envers chacun, en particulier ceux qui prennent Christ dans la balance avec eux dès aujourd'hui, pour ne pas être trouvés trop légers. Amen.